Mon invitée, Isabelle Dessureau, était cadre de haute direction dans des entreprises que vous avez connues, Nationale, Vidéotron, Québecor, le groupe Sélection, où elle était, c'était son dernier poste, première vice-présidente, avant de quitter cet emploi pour partir un projet personnel. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que souvent, on entend des exemples de gens qui ont décidé de changer de vie, mais presque par obligation, parce qu'ils ont fait un burn-out, parce qu'ils sont trop écœurés, alors que dans le cas d'Isabelle Dessureau, merci d'être là, Isabelle.
Merci.
C'est pas ça l'impulsion de début. C'est pas « je suis tannée, je suis plus capable, je m'en vais faire d'autres choses, je change de vie ». C'est pas ça du tout. C'est « qu'est-ce que j'ai envie de faire pour les prochaines années ».
Oui. En fait, je pense que la ligne, le filon de mon parcours, c'est la curiosité puis la fascination. Alors, à un moment donné, quand tu es très curieux, il faut aussi que tu touches à plein de choses. Et dans ma carrière, j'ai été dans différentes industries, tout ça. Puis là, j'avais le goût de vivre dans un tout autre univers pour mes 50 ans, c'est l'année prochaine, donc tout s'est activé plus vite que prévu. Donc, de vivre un projet à la fois personnel et professionnel à l'étranger, à l'international, parce que à l'aube de la cinquantaine, on a des questions sur la vie aussi, hein. Alors, je me disais, bon, là, j'ai un bagage de 25 ans dans le monde, dans mon cas, c'est dans le monde corporatif, mais j'ai aussi des questions sur la vie à venir, le sens de la vie, tout ça. Puis comment je pourrais marier tout ça? Aller chercher certaines réponses ailleurs, puis faire en sorte que mon sac à dos d'expérience puis d'expertise serve à d'autres aussi.
Mmh. Quel genre de questions tu as sur la vie?
Ben les questions sur le sens de la vie, sur le fameux bonheur, tu sais, comment on l'atteint, et c'est souvent pas en allant chercher au bout du monde qu'on trouve, mais je trouve aussi qu'il y a des questions de société, tu sais. Est-ce que notre société, par exemple, a les meilleures réponses à l'égard des femmes, de l'éducation, de comment on interagit entre nous, l'environnement, tout ça, puis d'aller dans un pays qui est aussi différent que nous, ça ne veut pas dire que c'est applicable chez nous culturellement, mais ça nous donne des pistes. Puis on sait que l'Inde, évidemment, d'un point de vue de la spiritualité, par exemple, peut donner des pistes de réponses que moi, je cherchais.
Ben, c'est ça, j'allais dire, l'Inde, c'est une bonne place pour commencer une quête existentielle, c'est sûr. C'est loin, en même temps, c'est un pays extrêmement pauvre. Donc, toi, tu pars quand même d'un milieu corporatif où tu as des moyens, toutes des entreprises où tu as travaillé, où il y a des moyens. Puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves en Inde. Comment tu as fait?
Ben en fait, moi, je suis allée en Inde pour la première fois en 2013 comme touriste. Et mon chum et moi, on a vraiment, vraiment eu un coup de cœur énorme pour le pays, qui est probablement le pays le plus complexe de la planète, ce que je pense.
Ou t'adores l'Inde.
T'adores ou tu détestes.
Ou tu détestes.
Il n'y a pas de juste milieu. Puis t'es pas un moins bon humain si tu détestes l'Inde. Mais nous, ça nous a fascinés. Et c'est un énorme pays, beaucoup de choses à voir. Chaque province est pratiquement, chaque État est pratiquement un pays en soi, culturellement. La nature, tu peux aller en désert, tu peux. Alors, on y est retourné plusieurs fois. Puis j'avais toujours ce sentiment que c'était très facile pour moi de connecter avec eux. Et je les aimais. J'aimais passer du temps avec eux. Je les trouve chaleureux. Tu peux rire, même si tu ne peux pas communiquer dans la même langue. Mais je voyais aussi cette évolution économique. Il y a un boom. Il y a une jeunesse qui est en train d'émerger puis qui change le pays, qui change les traditions du pays. Ça me fascinait. Puis pour le projet de mes 50 ans, je me suis dit, OK, j'ai à cœur quand même le leadership des femmes. Dans ma propre société, c'est sûr. Puis j'étais déjà impliquée après avec des jeunes, partager des expériences, tout ça. Mais je me disais, y a-t-il un endroit où est-ce que je pourrais aussi apporter une contribution? Et je voyais cette émergence de nouvelles femmes d'affaires en Inde, des entrepreneurs et des gestionnaires. Puis j'ai dit, c'est un peu les femmes des années 70 du Québec. Elles sont des battantes, elles écrivent le livre. Puis moi, j'avais le goût de dire, est-ce que je peux participer à ça?
Fait que tu fais quoi pour les aider, ces Indiennes émergentes?
Bien, maintenant, je suis vraiment impliquée dans un accélérateur de start-up qu'on appelle. Donc, quand je suis là-bas par bloc de 6 semaines. J'ai un appartement, tout ça, je suis pas à l'hôtel. Et donc, je fais des ateliers, je fais du mentorat individuel aussi. Donc, on regarde leur plan d'affaires, je leur donne des conseils par rapport à des choses, par rapport à parfois des comparaisons de modèles d'affaires ou d'autres organisations en Amérique du Nord que moi, j'ai vues, comment elles peuvent s'en inspirer, etc. Puis, bien, ça amène aussi à des relations plus personnelles sur être une femme en affaires, les défis que ça comporte et tout ça. Les boys clubs, comment on manœuvre dans tout ça, présenter à des investisseurs quand on est une jeune femme. Parce que les filles ont à peu près entre 28 et 34 ans.
Et la condition féminine en Inde,
ouais.
Ouf!
Oui, mais ça tend
à changer. T'es où? T'es à New Delhi?
Moi, je suis à Mumbai.
À Mumbai,
ouais. Qui est beaucoup plus, on va dire, moderne, et déjà multi, culturelle à l'intérieur du même pays aussi.
Mais ça, c'est comme une parenthèse de vie, finalement, que tu t'es offert.
Oui, j'ai pas mis de temps. Parce que c'est sûr, je suis pas indépendante de fortune et là, je vais avoir 49 ans. Donc, c'est clair que je peux pas faire ça bénévolement pour le reste de mes jours. Je l'avais prévu financièrement, cette année de pause. Puis Isabelle, honnêtement, j'aurais pas pu rêver, parce qu'il y a un an, on partait. C'est le 11 mai l'année dernière que je faisais le saut pour le premier long voyage avec une mission économique là-bas pour rencontrer des entrepreneurs avec une organisation qui s'appelle Womanity. Mais j'aurais pas pu rêver que mon objectif, c'était qu'un an plus tard, 8 femmes indiennes viendraient rencontrer ma communauté des affaires. Tu sais, que ça se passerait aussi vite et aussi concret. Pour moi, écoute, ça me réchauffe le cœur, c'est incroyable. Ce que je vais vivre dans la prochaine semaine, je vais le vivre à fond parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour que ça arrive. Puis la suite, ben, ça sera la suite.
Mais donc, ça veut dire que cette année, c'était pas un modèle d'affaires que tu développais, c'est comme vraiment un projet de sabbatique.
C'est un projet de sabbatique qui avait pas de fin, cela dit. Tu sais, je m'étais pas dit, bon, mais c'est un an, ça pourrait être 2 ans. Donc, c'est sûr que cette année, moi, c'était, puis c'est parfait parce que c'est mes valeurs m'amènent là. J'étais pas de consommation. Évidemment, tu réduis beaucoup.
Tu t'es pas acheté de linge, ça que tu veux dire?
Je n'ai pas acheté de linge. Ouais. Je n'avais pas besoin. J'en ai pas besoin. Ouais.
Tu as réduit tes besoins.
J'ai réduit mon rythme de vie. Puis on se rend compte que ça se fait quand même quand c'est préparé. Mm-hmm. Puis j'étais à un moment de ma vie où je pouvais le faire.
Ouais. Et là, bon, ces femmes viennent.
Ouui.
Qu'est-ce qu'elles vont faire?
Alors, elles viennent dans le cadre de C2, qui est le grand événement la semaine prochaine, qui va avoir aussi beaucoup d'autres délégations internationales. Mais elles ont une semaine remplie. Si tu savais comment il y a eu aussi, passe-moi l'expression anglophone, un sisterhood, d'autres femmes d'affaires, des jeunes aussi, qui ont dit, Isabelle, on veut t'aider, puis on va les connecter. Donc, la Caisse de dépôt a été exceptionnelle. 2 femmes incroyables, Anita George en Inde et Annie Castonguay et toute son équipe de l'espace CDPQ. On a une journée complète. Elles vont rencontrer des investisseurs. On va à Concordia. Ils ont un incubateur de start-up à Concordia aussi, qui s'appelle District 3. Donc, les filles vont rencontrer l'écosystème de start-up de Montréal. Puis, on a tenté de les pairer, si tu veux, les jumeler avec des start-up de leur secteur pour essayer de créer des maillages d'entreprises aussi. Elles vont à la BDC, tout ça. Puis, je serais très fort à organiser au moins 2 rencontres, ce qu'on pourrait dire one-on-one, dans la semaine.
Wow.
Ouais. Alors, c'est full house.
Mais ça, tu pourrais faire ça. Ça pourrait être une job quand tu vas avoir besoin de retourner travailler. Tu pourrais faire ça au Québec aussi.
J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Et on se rend compte, tu disais l'inspiration. On se rend compte que quand on demande aux gens, moi, j'étais une fille qui ne demandait jamais rien. J'avais peur de demander de l'aide.
C'est tellement vrai ce que tu dis.
On a toujours peur de demander de l'aide.
Pourquoi on est de même?
Je sais pas. Mais moi, je me suis rendu compte que ce qui s'est passé, la magie de ma dernière année, c'est qu'au début, j'avais peut-être 1 personne sur 4 même qui répondait à un courriel. Parce que je demandais des choses très spécifiques. Il faut être précis, dire,
c'est sûr.
Pourrais-tu me faire rencontrer un tel?
Qu'est-ce que tu veux?
Ouais,
faut
c'est
que tu saches ce que tu veux.
Ouais. Ouais.
Demander, c'est compliqué.
Oui.
Il faut bien savoir demander.
Oui, parce que les gens n'ont pas de temps.
Ouais.
Alors, mais les gens veulent aider. Et nous-mêmes, là, on est ravis quand on aide quelqu'un. Hein. Mm. Le feeling qu'on a. Alors moi, à un moment donné, j'ai passé cette barrière-là puis je me suis dit, moi, je suis contente quand quelqu'un me demande de l'aide puis que je peux le faire. Pourquoi tu ne rends pas ce plaisir-là aux autres aussi? Laisse-leur te dire non, laisse-leur de pas te répondre. Mais on se rend compte qu'il y a un vent de marée puis quelqu'un va nous connecter
puis
à un autre.
Puis au pire, si tu demandes puis qu'on te dit non, c'est tout.
Ouais,
on t'aura
tu
dit
pas
non.
Ça personnel.
C'est pas grave. Puis tu demandes à quelqu'un d'autre qui va
exact.
Peut-être te dire oui, mais tu as raison. C'est fou le nombre de fois où tu te rends compte que tu prends le téléphone, tu appelles quelqu'un ou tu envoies un courriel.
Oui.
C'est fou la réponse.
Oui.
C'est même surprenant.
Oui.
Qu'est-ce que tu vas retirer de ça? Voilà, on voit déjà là, que ça te nourrit beaucoup, ça te passionne, tu t'en parles avec cœur. Mais éventuellement, c'est un changement dans ta vie. C'est pas forcément un changement de vie, puisque ce qu'on comprend, c'est que tu vas retrouver une vie éventuellement ici. Mais est-ce que ça pourrait vouloir dire aussi que tu continues de vivre la moitié de l'année en Inde éventuellement? Jusqu'à quel point ça t'aura changé, cette expérience?
En fait, je pense que l'Inde ne quittera jamais ma vie. Alors, bien sûr, j'aurai besoin de travailler à l'automne. Ça prendra plein de formes. J'ai des rêves. Tu sais, j'aimerais, par exemple, lancer un fonds d'investissement où on pourrait investir dans des startups de femmes indiennes. C'est pas que je veux pas le faire ici, mais il y a déjà des choses qui se passent. Puis je pense que la communauté des affaires du Québec doit s'ouvrir aussi à ce qui se passe là-bas parce que...
Et on parle de pénurie de main-d'œuvre.
Exactement. Bon, ouais, tout ça. Alors, c'est ça que j'ai des rêves, j'ai des ambitions. Puis je suis encore toute jeune, je peux les réaliser sur plus de temps. Par exemple, le fonds d'investissement, mais... ce que ça aura changé, ben, premièrement, dans la dernière année, j'ai fait des rencontres fantastiques en Inde et aussi ici, des gens que j'aurais pas rencontrés si j'avais pas eu ce projet-là. Je me suis aussi découverte comme un peu une master connector, on va dire ça, parce que j'ai osé demander. Puis là, j'ai vu qu'il y a des réseaux.
Ouais.
T'es souvent à 2-3 personnes de distance.
Et, tu fais une entrevue avec moi ce matin. T'as fait mon collègue Paul Arcand il y a quelques temps. T'as fait quelques entrevues. Est-ce que tu comprends pourquoi ton histoire, est-ce que ça te surprend l'engouement des médias par rapport à cette histoire-là?
En fait, cette semaine, j'ai eu un feeling. Je vois l'engouement par rapport au projet. Je me dis, il y a ici une fascination de voir des jeunes femmes aussi indiennes de la trentaine qui sont en technologie, donc qui ne sont pas des femmes issues du milieu rural. Il y a une fascination. Puis oui, je pense que les gens, mon projet fascine.
Ouais.
Parce que j'ai fait le saut.
Décidé, voilà. Ouais. Et cette notion de faire le saut, prendre des risques, Ça intéresse les gens.
Ouais. Et c'est un beau risque.
C'est un risque qu'il faut calculer, c'est ça qu'on retient.
Oui, et planifier, et y mettre les efforts, mais la suite est extraordinaire.
Wow. Isabelle Essureau, merci beaucoup d'être venue nous donner peut-être le goût de sauter. Merci à tout le monde, on se retrouve demain.